France Culture.
4 mois après le cyclone Chido qui a dévasté Mayotte et a fait au moins 40 morts, 2 mois après le cyclone Garance qui a endommagé la Réunion et fait 5 morts, le président Emmanuel Macron s'est rendu dans ces 2 territoires implantés dans l'océan Indien pour une tournée de 4 jours. Et alors que les effets du cyclone sont encore partout, visibles et omniprésents, comment analyser la réponse de l'État? L'État est-il à la hauteur? Les différences de situation entre Mayotte et la Réunion permettent-elles de mieux saisir le rapport que l'État entretient avec ses territoires dits d'outre-mer? Pour en discuter, pour en débattre également, 2 invités ce soir. Clémentine Lehuger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez soutenu une thèse intitulée « L'État magnanier, imaginaire, pratique et rapport à l'État à Mayotte ». Avec nous et à distance, Christiane Raffidinarivo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex depuis La Réunion. Merci d'être avec nous. Vous êtes politiste, chercheuse associée au CEVIPOF Sciences Po. Vous avez co-dirigé l'ouvrage intitulé « Démocratisation de la démocratie, mouvements sociaux, institutionnalisation citoyenne et mobilisation numérique ». C'était aux presses universitaires indiano-océaniques. Merci à vous deux d'être présentes ce soir dans Question du soir.
C'était le 14 décembre. Les Maorés, pétrifiés par un cyclone dévastateur, s'abritaient comme ils le pouvaient, avant de constater les dégâts le lendemain. Une île ravagée, défigurée. Qu'en est-il 4 mois plus tard?
D'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est fait ces derniers mois. Mais nous avons collectivement tenu.
La reconstruction n'a pas forcément commencé. Ce sont juste des effets d'annonce.
Plus de 500 millions d'euros ont été mobilisés. Une loi d'urgence a été votée.
L'État n'assure pas la protection de la population à Mayotte. Il y a 2 France. Il y a la France hexagonale et après il y a la souffrance à Mayotte.
Pour autant, est-ce que tout est réglé? Non.
L'autre grand titre de l'actualité nous emmène sur l'île de la Réunion où le cyclone Garance a provoqué la mort de 3 personnes, dont une emportée par une coulée de boue.
À la Réunion, le chikungunya frappe vite et fort. 100 000 personnes contaminées depuis le début de l'année, selon l'Agence régionale de santé.
J'ai bien conscience que je vous parle quelques semaines à peine après un épisode terrible, le passage de Garance, et au cœur même d'une épidémie qui a encore touché si cruellement une famille aujourd'hui.
Alors on va entrer évidemment dans cette discussion, dans le détail de ces crises, de la gestion plus exactement de ces crises, mais je voudrais d'abord qu'on aborde le sujet de la relation de ces territoires, hein, de Mayotte et de la Réunion, de leur relation à l'État français. Notamment, ce rapport est compliqué, il est fait peut-être d'un paradoxe. Pour commencer, il y a beaucoup de défiance de ces populations à l'égard de l'État français et dans le même temps, beaucoup d'attentes. Comment est-ce que vous le comprenez? Comment est-ce que vous l'expliquez, Clémentine Lehuger?
Alors effectivement, la relation à l'État à Mayotte, elle est très ambivalente. Elle est marquée à la fois par une dimension critique, une critique de l'action de l'État sur le territoire, un sentiment d'abandon très fort, très largement partagé par l'ensemble de la population et par la classe politique mahoraise. Et aussi, comme vous l'avez souligné, des demandes très importantes qui sont d'autant plus vives, hein, dans les moments post-crise comme celui qu'on est en train de vivre actuellement, mais qui, malheureusement, hein, dans l'actualité de ces 15 dernières années, revient avec un rythme assez soutenu. Donc il est ambivalent, et cette ambivalence, alors elle n'est pas spécifique à Mayotte, déjà, je pense que c'est important de le rappeler. Le rapport à l'État, il est ambivalent. Il est ambivalent dans les territoires de l'Hexagone et dans l'ensemble des territoires ultramarins. À Mayotte, il est aussi nourri quand même, et c'est peut-être là la spécificité, par une trajectoire coloniale et postcoloniale particulière, là aussi hein, marquée par une forme d'ambivalence, là pour le coup de l'État à l'égard hein, de Mayotte, hein, qui a eu du mal à finalement sécuriser le statut de Mayotte.
Christine Raffidinarivo, c'est la même chose que vous observez, cette ambivalence-là entre défiance et attente à l'égard de l'État français, c'est la même chose que vous observez vous-même à La Réunion ?
Ce n'est pas sur le même registre. Si nous parlons du présent en tant que politiste...
Eh bien, je crois que pour cette première intervention, on tentera de reprendre en tout cas le lien avec vous, puisque la connexion a été coupée. Je voudrais revenir justement, Clémentine Lehuger, sur ce qu'on a entendu, sur la façon dont Emmanuel Macron intervient à Mayotte, à La Réunion, à Mayotte plus exactement, dont vous êtes spécialiste. Ce type d'intervention, j'allais dire, avec tambours et trompettes, ces grandes interventions de l'État, ces grands déplacements en temps de crise, quels effets ont-ils, là encore, sur les populations? On a le sentiment vraiment vu depuis l'Hexagone que l'on parle de Mayotte essentiellement quand on parle de crise identitaire, de crise sociale, de crise économique, de crise climatique également pour le cyclone qui a dévasté l'île. Est-ce que ce rapport aux crises fatigue aussi les populations ?
Alors oui, ça c'est sûr que le prisme par lequel on se saisit justement de Mayotte et par lequel Mayotte surgit, on pourrait dire, en hexagone, c'est clairement par le prisme des crises. Alors, les visites officielles, elles sont intéressantes comme à observer en tant que chercheur et chercheuse, parce que donc ces visites ministérielles, voire présidentielles, elles disent en fait quelque chose justement de ce rapport à l'État et de ce qui se joue, parce que c'est en fait une mise en scène du rapport à l'État. Et donc, quand on les observe, on se rend compte de pas mal de choses. Ce qui est aussi intéressant, je pense, à relever dans cette séquence post-crise, c'est que finalement les annonces et aussi les comportements et les manières d'être d'Emmanuel Macron, qu'il a fait donc à l'occasion de sa dernière visite à Mayotte cette semaine, en fait, ça s'inscrit dans la continuité de ce qui se passe à Mayotte depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années. La gestion en fait post-crise est devenue le mode en fait ordinaire de gouvernement de ce territoire. On n'est que dans effectivement une succession en fait de séquences. Il y a une crise, vous avez rappelé, ce sont des crises multiformes, sociales, identitaires, climatiques, sanitaires évidemment, qui se succèdent. Derrière, il y a des annonces effectivement, des très grandes annonces avec des très gros montants qui paraissent incroyables lorsqu'on les entend, qui sont débloqués, des plans Mayotte 2025, Mayotte 2035, Mayotte 2050. Avec des effets d'annonce très importants. Et puis ensuite, une autre crise qui survient, de nouveau des nouvelles annonces. Et c'est comme ça, les séquences se répètent et sont rythmées.
Et très peu de suivi, par ailleurs, il faut le dire, dans l'exécution même de l'effectivité de ces montants, dans la remise sur pied de certains bâtiments, de certaines infrastructures. Dans le fond, on a le sentiment que les représentants de l'État lancent dans l'air de grandes annonces lorsque les crises surviennent, et que dans les suivis, ils sont beaucoup, beaucoup moins nombreux pour ce faire.
Alors, effectivement, après, sur les enjeux de responsabilité, je pense qu'il faut aussi être prudent. Il y a des vraies difficultés dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques à Mayotte, sur les enjeux, par exemple, de reconstruction, et on le voit en ce moment sur le territoire, il y a une difficulté en fait, d'approvisionnement, donc on est vraiment dans des difficultés matérielles. Après, sur les questions de l'investissement de l'État et de la pérennité de l'investissement de l'État à Mayotte, oui, là, pour le coup, il y a clairement une responsabilité de l'État et un manquement de l'État dans le suivi des grands projets. Ce qu'on se rend compte aussi, et l'actualité le montre, c'est la marginalisation des élus mahorais, qui l'ont dénoncé d'ailleurs dans le plan qui a été annoncé, le plan refondation de Mayotte. Les élus ont été tenus à la marge. Les grandes revendications qui sont portées par la classe politique mahoraise depuis des années, notamment la fin du séjour territorialisé, mais également la construction d'un nouvel aéroport avec une piste longue, ont été les deux grandes mesures qui ont été écartées au profit d'autres mesures dont ne voulaient surtout pas les élus mahorais, et notamment le changement du statut de Mayotte.
Le biais induit aussi, Clémentine Lehugé, par ces grands déplacements, c'est le sentiment que ces territoires sont continuellement subventionnés par l'État français, que l'État français intervient considérablement plus pour Mayotte, pour La Réunion, pour d'autres territoires d'outre-mer, bien plus que, j'allais dire, que la moyenne hexagonale. Est-ce que cela, on sait, d'un point de vue statistique, si cela est vrai ?
Alors oui, c'est une représentation très largement partagée de ces territoires ultramarins. L'idée que ce seraient des territoires sous perfusion, qui n'auraient, entre guillemets, excusez-moi l'expression, aucune valeur ajoutée pour la République, et qui ne produiraient pas leur propre valeur. Alors, il y a effectivement, ça, c'est complètement faux, c'est une idée reçue. Ça s'objective par tout un tas de chiffres, et notamment sur la question, par exemple, des prestations sociales. Je rappelle qu'à Mayotte, l'ensemble des prestations sociales sont minimum 50% inférieures au montant qui sont dispensés en Hexagone et dans l'ensemble des Outre-mer par ailleurs, et que les conditions d'accès à ces prestations sociales ne sont pas non plus les mêmes et sont beaucoup plus restrictives.
On a récupéré normalement la connexion avec vous, Christiane Raffi-Dinarivo. Quelle analyse vous-même vous faites de ce déplacement d'Emmanuel Macron durant 4 jours ? Est-ce que vous portez un regard similaire ? Dans le fond, c'est un regard de l'État qui est porté sur ces territoires avec un imaginaire qui est diffusé, imaginaire selon lequel ces territoires, notamment La Réunion, notamment Mayotte, seraient plus subventionnés sous perfusion de l'État ?
D'abord, il faut souligner que du point de vue de Mayotte et de La Réunion, le point commun, c'est que ce déplacement est un déplacement, comme le dit lui-même le président de la République, de solidarité nationale, et l'organisation des arguments présentés au président de la République, soit pour protester sur certaines facettes de la situation, soit pour revendiquer ou faire des demandes, tourne évidemment autour de cette question de la solidarité nationale. que les Maorais ou les Réunionnais saluent, attendent, réclament et considèrent comme en toute situation de crise, comme la première puissance de proximité vers laquelle se tourner et sur laquelle on peut compter. Donc ce sentiment est très fort et ce n'est pas seulement un sentiment parce que les élus, évidemment, travaillent sur ces dossiers-là, travaillent sur ce lien avec l'État et jouent leur rôle donc de interface avec les besoins de la population et évidemment ce que l'État peut et doit apporter. Ceci dit, il est évident qu'il y a une forme d'ambivalence vraiment flagrante puisque cette attente est très forte et elle est très souvent aussi empreinte de déception dans la mesure où les aides attendues ne sont pas toujours à la mesure de ces attentes et, ni l'organisation parfois aussi d'ailleurs. Et aussi, il faut souligner, c'est que du côté de la Réunion, et c'est là sans doute une très grande différence avec Mayotte, les élus réunionnais depuis la décentralisation, c'est-à-dire depuis les années 1980, ont assumé beaucoup de négociations avec l'État, sont rodés à cet exercice et savent travailler avec l'État. Et cela, la population le sait très bien et sait aussi que c'est le rôle des élus, de quelque bord que ce soit d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai qu'ils remettent ça là, aux élus, ce devoir-là. Pour finir sur ce plan précis, je dirais que nous, au CVPOF à Sciences Po, nous avons un outil très intéressant qui est déployé depuis 10 ans maintenant, qui s'appelle le baromètre de la confiance. Ce sont des sondages quantitatifs sur tout le territoire national et j'aimerais souligner que ça n'existe pas dans les Outre-mer. Si nous avions le même outil, nous pourrions dire de façon quantifié, quantitative et pas seulement qualitative, voire subjective, l'état de cette confiance, de ce lien de confiance ou de défiance ou de méfiance entre l'État et la population d'un côté, l'État et les élus aussi d'autre part. Et ce serait beaucoup plus intéressant sans doute pour anticiper les mesures à prendre et les négociations à mener.
Je voudrais que l'on revienne quelques mois en arrière à l'automne dernier lorsqu'Emmanuel Macron était d'ores et déjà présent à Mayotte. C'était le 20 novembre. Je voudrais vous faire entendre une altercation entre Emmanuel Macron, le président de la République, et les Mahorais, pour ensuite vous la faire commenter.
Tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes content d'être en France. Parce que si ce n'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien. Français et dire que ça marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors faut que tout le monde se respecte.
Clémentine Lehugé, qu'est-ce que ça raconte ce moment difficile, dans tous les sens du terme d'ailleurs, à entendre, cette relation peut-être entre l'État français et les populations mahoraises, là en l'occurrence? On a le sentiment que le discours de l'aide, de la subvention, de « sans nous, vous ne serez rien » est omniprésent là encore.
Oui, là effectivement, ce moment hein, où Emmanuel Macron arrive à Mayotte juste après le cyclone, se retrouve face à une population les pieds dans l'eau. On n'a pas les images, on a la radio, mais ça a été filmé. C'est particulièrement saisissant ce qui se joue dans ces interactions assez violentes. Et effectivement, ça dit plein de choses. Le positionnement d'Emmanuel Macron, il est très particulier en fait à ce moment-là parce qu'il s'adresse à un département français, enfin une population du coup qui vit dans un département français, et il s'adresse à cette population en leur disant: vous avez la chance d'être en France. Donc même pas d'être français, on peut pas s'empêcher d'ailleurs de souligner qu'il dit pas: vous avez la chance d'être français.
On rappelle que Mayotte est le 101e département de France depuis 2011 par ailleurs.
Oui, département depuis 2011 et français depuis 1841 par ailleurs. Donc et en fait ce qui est aussi intéressant, c'est que Emmanuel Macron le sait forcément. Dire ça à Mayotte, c'est particulier aussi. Il y a une mémoire politique extrêmement vive qui célèbre le rattachement de Mayotte à la France, la départementalisation, le slogan c'était « Nous voulons rester français pour être libres ». Ça marque encore énormément la mémoire collective. Et donc, dans un moment comme ça de grande tension, arriver avec un discours de dominant, en fait. Enfin, clairement, là, la dimension postcoloniale, elle est assez évidente dans ce positionnement d'Emmanuel Macron. C'est extrêmement choquant pour la population mahoraise. Ça a été très, très, très critiqué. Et surtout, c'est venu rompre, en fait, fait avec une manière de construire justement les relations entre l'État et Mayotte dans ces moments de vie officiels dont je parlais tout à l'heure. Normalement, voilà, Emmanuel Macron arrive, d'ailleurs tout, les représentants politiques arrivent en grande pompe, c'est collier de fleurs, c'est les femmes qui chantent, qui dansent, qui sont là, c'est très cérémoniel, c'est très important, les Mahorais sont très fiers de leur accueil. Là, cette séquence, elle détonne aussi avec cette tradition d'accueil.
On a du mal encore à rétablir la connexion avec la Réunion, mais justement, on a sans doute ce biais aussi en hexagone, une idée selon laquelle Mayotte et la Réunion appartiendraient à une seule et même région, unie presque, j'allais dire, comme si le destin de ces deux territoires était absolument lié. À quel point cette idée est-elle fausse, Clémentine Lehuger ? Qu'est-ce qui distingue fondamentalement la Réunion de Mayotte ?
Alors, elle est fausse sur plusieurs aspects. Elle est fausse d'abord d'un point de vue historique, bon déjà géographique. Enfin, je le rappelle aux auditeurs et aux auditrices, Mayotte-La Réunion, c'est 1450 km, donc c'est 3h15 d'avion. Et les prix des billets d'avion sont extrêmement chers. Vous n'y allez pas toutes les semaines. Donc déjà, première réalité. Ensuite,
donc il y a très très peu d'échanges de relations même humaines entre les deux territoires.
Il peut y en avoir, évidemment, il peut y en avoir. Vous avez les Mahorais issus des classes les plus privilégiées qui peuvent parfois se déplacer à La Réunion. Il peut y avoir des échanges un peu commerciaux, mais c'est extrêmement limité. C'est pas des circulations quotidiennes, très loin de là. Ensuite, en termes justement de trajectoire coloniales et postcoloniales, qui sont fondamentales pour comprendre justement l'état des relations à l'État aujourd'hui, elles sont extrêmement différentes et elles n'ont pour le coup rien à voir. Mayotte, vous l'avez rappelé tout à l'heure, départementalisation en 2011, trajectoire postcoloniale, voilà, qu'on ne va pas rappeler ici, mais extrêmement compliquée, en gros faite d'une succession de statuts sui generis, donc créés spécifiquement pour Mayotte, qui témoigne en fait de la position de la France qui ne sait pas en fait comment, que faire de Mayotte après 46. Et de l'autre côté, vous avez La Réunion, qui, on est sur 9, aussi, voilà, démographiquement, La Réunion, près d'un million d'habitants, Mayotte, 340 000, rien à voir. La Réunion départementalisée en 1946. Effectivement, ma collègue Christiane Raffi-Dinarivo le rappelait tout à l'heure, une classe politique réunionnaise qui a des liens, en fait, historiquement très forts avec les autorités centrales, ce qui a eu aussi des effets. On parle aussi à La Réunion des années Debré, dans les années 60, qui ont accéléré aussi le développement de La Réunion. Donc voilà, on a des territoires qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu une volonté politique, du fait aussi de cette difficulté de se positionner par Mayotte, de venir régionaliser, on pourrait dire, le gouvernement de Mayotte en passant par La Réunion. Ce qui a suscité un mécontentement très très fort à Mayotte, parce qu'il y a eu beaucoup, alors il y a eu des choses qui relevaient de la rumeur et d'autres choses qui ont été prouvées, comme quoi La Réunion en fait se servait dans certains crédits, et notamment sur les crédits sanitaires. C'est d'ailleurs le rapport qu'a fourni Dominique Voynet, qui est venu justifier la création d'une ARS de plein exercice à Mayotte en 2020.
Une ARS, c'est une agence régionale de santé.
Puisqu'avant, c'était une ARS océan indien. Donc, les crédits transitaient par La Réunion et les miettes revenaient à Mayotte.
Christiane Raffi-Dinarivo, on a sensément rétabli la connexion avec vous. Justement, quel regard les Réunionnais portent sur les Mahorais ? Est-ce qu'ils se sentent appartenir à une communauté de destin avec eux ou bien au contraire, ils tentent de marquer une distinction entre le destin des deux territoires ?
Pour répondre à cela, je vais revenir sur ce que disait Madame Lehuger à l'instant. Son analyse est tout à fait pertinente en termes de rapports coloniaux, post-coloniaux. Tout cela est tout à fait vrai, mais je pense que c'est tout à fait incomplet pour comprendre la situation. Pourquoi ? Parce qu'il manque l'analyse des rapports de force politique. Les rapports de force politique sur le territoire maoré aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes que les rapports de force politique à La Réunion. Nous avons Mayotte, donc depuis plusieurs années, plusieurs scrutins électoraux maintenant, une très forte poussée électorale du Rassemblement national, dont c'est un territoire de prédilection donc en termes de victoires électorales. À La Réunion, nous l'avons beaucoup plus récemment, donc ça c'est un point commun, mais la profondeur des arguments, du vécu, du ressenti politique et de la culture politique récente à Mayotte est une culture d'opposition qui est d'extrême droite majoritairement. À La Réunion, même si les scrutins, en tout cas la présidentielle, ont donné Marine Le Pen comme victorieuse, ce n'est pas une culture politique d'extrême droite du même type, c'est plutôt un basculement, une volatilité électorale. Et nous sommes donc dans des rapports de force qui sont très différents vis-à-vis de l'État, même si, et c'est tout à fait vrai dans la situation républicaine dans laquelle nous sommes, le président de la République, une fois élu, est président de tous les Français et se doit d'exercer la solidarité nationale vis-à-vis de tous les territoires et plus précisément vis-à-vis des plus vulnérables, vulnérables climatiquement, vulnérables démocratiquement. On parlait d'inégalité tout à l'heure, vulnérable aussi en termes géopolitiques, parce que comme vous le savez, Mayotte est un territoire où les tensions sont très fortes en raison de l'immigration et des rapports de force avec les Comores, et plus largement donc dans la situation actuelle géopolitique avec la Russie par exemple. Donc nous avons une situation tendue très différente à Mayotte par rapport aux tensions qui peuvent exister de nature même à La Réunion.
Une réaction et votre analyse, Clémentine Lehuger, sur Mayotte, territoire du RN, territoire du Rassemblement national. Est-ce que vous partagez cette analyse-là ?
Alors, effectivement, c'est intéressant d'observer, et d'ailleurs, j'incite, il n'y a pas de projet de recherche encore dessus, mais il y a une montée en général déjà de l'extrême droite en France, mais particulièrement en Outre-mer. Donc, c'est assez intéressant à observer. À Mayotte, effectivement, il y a une percée du RN très importante. Il y a une députée Rassemblement National qui a été élue aux dernières élections législatives. Ceci étant, je ne parlerai pas pour autant d'une culture politique d'extrême droite à Mayotte, pour la simple et bonne raison que il faut savoir qu'en fait, les partis nationaux, donc tels qu'on les connaît en France hexagonale, en fait, sont arrivés très tardivement à Mayotte. Pendant très longtemps, et c'est encore en lien avec cette histoire postcoloniale, pendant très longtemps, le seul et unique parti qui a organisé les forces politiques à Mayotte, c'était le MPM, le Mouvement Populaire Mahorais. Et donc, c'était dans cet élan vers la départementalisation qui a structuré l'échiquier politique local. Par ailleurs, concernant votre question que vous posiez sur la perception des Mahorais à La Réunion, c'est intéressant parce que justement...
Il y a une communauté mahoraise à La Réunion et c'est justement dans ces relations-là qu'il faut entrer dans le détail.
Ouais, et c'est très intéressant parce que ces derniers mois, en fait, on assiste à La Réunion justement à des mouvements, des mobilisations et notamment la création de milices qui se mobilisent contre les Mahorais. Donc, qui,
devant de milices, c'est-à-dire de groupes armés capables d'attaquer justement des Mahorais ?
Non, pas de milices dans ces termes-là, mais qui se revendiquent comme des... Enfin, en tout cas, c'est un des c'est la milice anti-squat, par exemple, qui est nommée comme telle, et qui se réunit depuis plusieurs mois devant les grilles de la préfecture pour... Enfin, clairement, les mots d'ordre sont très clairs. Ils sont scandés devant la préfecture en place publique. C'est le départ des Mahorais et surtout d'empêcher l'arrivée des Mahorais sur le territoire réunionnais. Donc, on a vraiment des discours anti-Mahorais qui se répandent de plus en plus à La Réunion. Anti-Mahorais, et d'ailleurs qui englobe généralement aussi les Comoriens sans distinction, avec aussi des opérations de hiérarchisation un peu de la citoyenneté, avec l'idée que, comme Mayotte ne serait pas un vrai département, parce que trajectoire plus tardive, etc., finalement, il y aurait des échelles dans les citoyennetés qui s'opéraient entre les deux territoires. Donc avec des rapports de force quand même marqués par une forme de violence et d'altérisation des populations mahoraises et comoriennes qui, encore une fois, sont en train de monter en puissance à La Réunion, du fait aussi du cyclone qui a entraîné un déplacement des populations mahoraises pour certaines vers La Réunion.
En quelques mots, Christiane Raffi-Dinarivo, parce que je voudrais quand même qu'on parle de la gestion de crise présente suite aux deux cyclones qui ont ravagé Mayotte et La Réunion. Est-ce que vous observez vous-même ces rapports de force de plus en plus abrasifs à La Réunion ?
J'ignore ce que Madame Lehuger entend par milice, parce que c'est un mot lourd de sens et qui a une signification bien précise. Si on parle d'expression en termes de liberté publique, de ce que les Réunionnais pensent de la situation actuelle où il y a une migration plus significative qu'auparavant interne à la France de Mayotte vers La Réunion qui crée effectivement des tensions, d'autant plus qu'on demande, quand je dis on, c'est l'État central ou les autorités publiques qui demande à La Réunion en tant que département, en tant que région ou même aux citoyens réunionnais d'être accueillants, solidaires dans un contexte où le territoire lui-même est en difficulté, que ce soit en termes de logement, en termes de seuil de pauvreté. 37% de la population à La Réunion vit en dessous du seuil de pauvreté. À cela s'ajoute une nouvelle violence apparue à La Réunion depuis ces quelques années, issue de cette migration interne où il y a une forme formation de gang entre jeunes Mahorais délaissés qui sont livrés à eux-mêmes et qui donc prennent en possession, si l'on peut dire, en tout cas une forme d'emprise sur certains quartiers, empreints de violence, de trafic illicite et de comportements analogues à ceux de gang. La préfecture a d'ailleurs mis en place un plan anti-bande organisé et confronté à cette nouvelle forme de violence, il est vrai que les Réunionnais s'inquiètent de plus en plus et au-delà de ça donc posent des questions sur comment cela peut ébranler la culture, le vivre ensemble réunionnais, la sécurité sur le territoire, l'éducation donc dans les écoles et la déscolarisation, tout un tas de questions de solidarité et de désolidarisation effectivement qui se posent. Comment se fait-il que voilà les questions posées, que la Réunion qui est déjà en tension sur les questions hospitalières, les questions sanitaires en pleine épidémie actuellement, on lui demande encore d'être solidaire du territoire voisin, donc alors que la France pourrait accueillir donc au sens de la France entière. Donc évident que cette logique géographique, on peut la comprendre du point de vue des politiques publiques de l'État central, mais dans l'opinion publique ici et dans ce qui a été exprimé officiellement par les élus, il y a tout un certain nombre de... Je finis avec l'exemple des personnes qui sont donc emprisonnées suite à un jugement et dont la peine est finie, donc emprisonnées à La Réunion, mais sont maorées. Il y a les élus qui demandent à ce que ces personnes-là sont reconduites, entre guillemets, nous sommes quand même entre Français, reconduites dans le territoire maoré pour que ça ne continue pas à poser des problèmes croissants de sécurité sur le territoire. C'est tout cela qui fait les tensions et non pas seulement une question de milice dont je ne sais pas exactement de quoi il s'agit en termes de définition.
Je pense justement que la définition a été amendée par Clémentine Lehuger elle-même. Clémentine Lehuger, justement, c'est vrai que ça peut interroger qu'on demande à des Réunionnais d'être solidaires à l'égard des Mahorais. Dans le fond, c'est l'État français et l'ensemble de Français qui devraient être solidaires à l'égard de Mayotte.
Oui, exactement. En fait, ce que décrit Christiane Raffi-Dinarivo, en fait, c'est une relation triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a Mayotte, il y a La Réunion et... il y a l'État central et il y a l'État hexagonal. Et c'est vrai que pour les Réunionnais, il y a un sentiment très fort, en fait, de frustration et d'injustice par rapport à ce qui est demandé. Après, en termes de solidarité, attention aussi aux termes qui sont employés. L'exemple là, qui a été donné sur le transfert, par exemple, des prisonniers ou sur les transferts sanitaires, ça concerne quand même des cas assez limités. Hein. C'est pas tous les prisonniers de Mayotte qu'on envoie vers La Réunion. Ça suscite beaucoup de mécontentement, beaucoup d'inquiétude. Par rapport...
Côté réunionnais,
bien sûr. Côté maorais, hein, c'est vrai que les rapports sont aussi très compliqués. Du côté de Mayotte, il y a aussi la critique, hein, justement, que finalement le département réunionnais voisin justement refuserait d'accueillir les maorais et les maintiendrait, hein, dans des formes, hein, à la marge, on pourrait dire, du territoire.
J'aimerais qu'on aborde le sujet maintenant de la gestion de crise, hein, de crise post-cyclone, puisque un cyclone a frappé chacune de ces îles, La Réunion et Mayotte. Et je voudrais qu'on aborde d'abord la question sanitaire, hein, puisque une épidémie de chikungunya a commencé à recouvrir l'île de La Réunion.
Au CHU nord de La Réunion, chaque jour, une dizaine de nouveaux malades souffrant du chikungunya, comme ce sexagénaire diabétique.
On était mal en point, le chik 3 semaines, et ce matin, vomissement et vomissement. Mais là, le chik, ça va, ça a dû passer quelque part, mais ça fait mal.
Pour l'instant, selon les soignants, le plan blanc déclenché il y a 2 semaines est bienvenu. Il renforce l'hôpital, souvent sous-effectif.
Et quelques patients supplémentaires qui nécessitent une prise en charge hospitalière un peu longue, parce que ce sont des patients fragiles et vulnérables, et bien ça suffit à embouteiller le système hospitalier. Donc chaque jour, vous avez le flux entrant qui se cumule aux quelques patients qui n'ont pas été hospitalisés faute de place. Chaque jour, ça se répète. Et vous avez comme ça, la semaine dernière, des patients qui ont attendu jusqu'à 24 heures sur un brancard. Et avec le matin à 8 heures, 20 patients à hospitaliser.
Christiane Raffi-Dinarivo, on dénombre 7 décès aujourd'hui liés au chikungunya sur l'île de La Réunion. Les services hospitaliers sont largement saturés. Comment est-ce que vous décririez vous-même la situation actuelle ?
La situation actuelle est tendue du point de vue hospitalier, mais du point de vue des patients, il y a un très grand nombre de personnes qui sont atteintes. Donc, il y a un vrai problème. Nous sommes en épidémie, et le pic de l'épidémie n'a pas l'air d'être vraiment passé, et l'hiver n'est pas encore là. Donc, tant que nous sommes dans cette saison, il est certain que l'extension de l'épidémie est toujours à craindre. Les vaccins sont annoncés, vont arriver, mais ne concernent qu'une cible bien précise, les plus de 65 ans et les plus vulnérables. Donc aujourd'hui, il est évident que les enjeux d'investissement, les enjeux à terme de déploiement donc de budget sont extrêmement importants puisqu'on voit les limites des capacités sanitaires de la Réunion là avec cette épidémie comme on l'a déjà vu pendant le Covid. J'aimerais sur ce sujet revenir sur la question donc des dotations de l'État et de l'Union européenne. Je n'ai pas eu l'opportunité de répondre tout à l'heure, donc j'aimerais souligner le fait que les subventions de l'État pour les territoires ultramarins en général, mais en particulier pour la Réunion Mayotte, puisque c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui, sont largement inférieures aux dotations européennes. Ces territoires sont des régions ultra-périphériques européennes. Donc il y a de l'argent européen disponible à plusieurs guichets et on constate un souci réel, important à Mayotte, c'est que il y a une faible capacité d'absorption, ça signifie que les budgets ne sont pas consommés entièrement. C'est aussi vrai en moindre mesure à La Réunion. Donc, il y a du travail à faire pour pouvoir utiliser ces budgets qui sont bien plus importants que ceux que l'État apporte comme dotation à ces territoires. Et il faut bien souligner que ces budgets sont d'un côté donc pour le développement, donc dédiés au développement des territoires. D'autre part, il y a des budgets dédiés au fonds social et beaucoup d'autres budgets vraiment de très nombreux, plus d'une dizaine au moins, que l'on pourrait mobiliser rapidement. Donc il y a une montée en compétences aussi à prendre. C'est pas seulement une question de ressentiment ou de ce qui est tout à fait compréhensible ou de colère quand on se retrouve impuissant et démuni dans les cataclysmes, les épidémies et tout ce que nous venons de décrire. Il s'agit maintenant aussi de penser comment améliorer les compétences pour pouvoir utiliser l'argent disponible déjà et pouvoir aussi en mobiliser d'autres et avoir cette vision qui soit dans les possibilités donc d'agir pour le territoire et avec les élus du territoire, mais aussi du côté privé, citoyen. Donc moi, je trouve vraiment important que nous ayons une réflexion sur ça dans les territoires ultramarins et particulièrement les régions ultra-périphériques européennes.
Justement, à propos de ces montants, lorsqu'il était à Mayotte avant-hier, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi dit de refondation de l'archipel dont le vote prévoit-il, est prévu, c'est le cas de le dire, d'ici l'été. 3,2 milliards d'euros seraient engagés entre 2025 et 2031. Clémentine Lehuger, qu'est-ce que cela signifie un montant comme celui-ci? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que Mayotte a la capacité même de l'absorber? Et dans le fond, est-ce que cela a même du sens d'annoncer de gros montants, pour reprendre votre expression, de cette façon-là?
Alors, je serais bien en difficulté de dire si c'est suffisant ou pas, 3 milliards d'euros. Par contre, quand on regarde un petit peu dans le détail en fait de ce projet, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Bon, déjà, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un effet d'annonce très fort, plus de 3 milliards d'euros, c'est énorme, dans une temporalité qui est quand même assez courte. Ça pose un certain nombre de questions. Ce que disait Christiane Raffi-Dinarivo à l'instant sur les capacités d'absorption des acteurs locaux, justement, de ces montants de l'aide, c'est assez intéressant. Il y a des difficultés d'ingénierie, des difficultés d'approvisionnement, etc., qui font que voilà, l'action publique à Mayotte, elle est mise en difficulté sur plein d'aspects différents.
Mais ça veut dire, pardonnez-moi, qu'il faut revoir le montant ou qu'il faut étaler sur plus d'années la répartition de ce montant?
Je ne répondrai pas ni à l'une ni à l'autre, ni à la deuxième de vos deux questions, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que il faut savoir qu'à Mayotte, les montants de l'aide, de subvention, pardon, parce que c'est pas de l'aide, ne sont pas toujours consommés. C'est vrai ce que disait Madame Raffi-Dinarivo à l'instant. Ça tient à plusieurs raisons, mais du coup, ça construit aussi l'idée selon laquelle les élus seraient des incapables à Mayotte. Et ça, c'est une image très négative de la classe politique mahoraise qui est souvent partagée et véhiculée sur place, avec l'idée qu'ils ne seraient pas capables de consommer les fonds. Or, il y a tout un tas d'autres difficultés structurelles. Et aussi, il faut le rappeler, c'est que il y a de la conditionnalité en fait autour de l'attribution de ces montants. Donc, il y a notamment des calendriers, des agendas qui sont parfois très difficiles à tenir dans un territoire où on manque cruellement d'ingénierie.
Vous aviez d'autres points à développer, me semble-t-il.
Je ne sais plus l'autre partie de la question.
Dans ce projet de loi est aussi évoqué le fait d'aligner notamment le SMIC hexagonal avec le SMIC mahorais. Est-ce que ce chemin, Christiane Raffi-Di-Narivo, ce chemin entre guillemets vers l'égalité réelle, pour reprendre l'expression utilisée par le président de la République lui-même, est-ce qu'elle vous semble pertinente? Et surtout, pourquoi le SMIC en l'occurrence et pas l'ensemble des aides sociales adressées aux mahorais?
Cette inégalité réelle que vous évoquez, je la trouve avant tout choquante. Elle existe depuis très longtemps. Les efforts fournis n'ont pas permis jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des améliorations bien sûr, mais ces efforts n'ont pas permis aujourd'hui d'atteindre l'égalité réelle. Et si l'on ne parlait que des revenus sociaux, des transferts, des revenus de transfert, déjà je trouve ça vraiment scandaleux. La nation est une et indivisible. C'est ça le principe de la Constitution. Je sais bien que dans la Constitution, il est aussi dit que les territoires ultramarins ont leurs spécificités. Et donc, je trouve choquant de s'appuyer institutionnellement sur ces dispositifs constitutionnels pour perpétuer ces inégalités en termes d'aide sociale, en termes de soutien, de solidarité, encore une fois, nationale. Et je pense que c'est vraiment un effort à faire républicain d'améliorer, en tout cas de faire en sorte que ces inégalités soient résolues. Réduites, certes, pragmatiquement, mais en tout cas dans le but de mettre l'égalité des conditions, comme on le dit.
Je ne suis pas certain cependant que la question du SMIC se règle au niveau constitutionnel. Clémentine Lehugé, une réaction.
Effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un projet d'alignement du SMIC à Mayotte, mais effectivement pas des prestations sociales, pas de l'ensemble des prestations sociales. Alors, le registre de justification, c'est toujours le même. Le fait qu'à Mayotte, vous n'ayez pas les APL, le fait que le RSA soit beaucoup plus inférieur dans un territoire pourtant où 30% de la vie est plus chère de façon générale, c'est justifié par la fameuse théorie, qui n'en est pas une puisqu'elle n'a jamais été prouvée, de l'appel d'air. L'idée selon laquelle, justement, si on alignait, si on faisait l'égalité réelle, il y aurait un appel d'air migratoire. Alors, là encore, cette idée est complètement absurde et infondée, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des conditions d'accès très restrictives aux aides sociales qui, de toute façon, excluent les populations qui n'ont pas la nationalité française ou qui ne sont pas régularisées. Donc, de fait, voilà. Ce que je voulais juste préciser par rapport au plan de refondation annoncé donc, par Emmanuel Macron, dont vous parliez tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'au-delà de la question du montant, quand on regarde un tout petit peu dans le détail, la première mesure, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Et alors là, ça pose question, parce qu'on est quand même post-cyclone, donc une catastrophe naturelle. Comment s'organise cette espèce de mécanique qui consiste à relier la problématique migratoire avec un territoire complètement dévasté par un épisode cyclonique? J'aimerais bien le comprendre.
Une réaction très très courte, Christiane Raffi-Di-Narivo, sur ce point-là, sur la question de l'immigration en première place dans ce projet de loi, puisque c'est le point évoqué à l'instant.
Nous parlions tout à l'heure de rapport de force politique, c'est un élément prégnant bien sûr pour ce type d'arbitrage. Ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est ce qui est proposé comme format de financement de ce qui sera la reconstruction de Mayotte. Et le format, il est plus seulement adossé aux finances publiques, puisqu'on sait aussi quelles sont les restrictions budgétaires aujourd'hui. Ce plan s'appuie sur une levée de fonds du privé, une mobilisation du privé et des sociétés civiles, notamment humanitaires. Et donc, c'est cela qu'il va falloir voir à l'épreuve, si ça fonctionne ou pas.
Merci beaucoup à toutes les deux, Clémentine Lehugé, Christiane Raffi-Di-Narivo.